Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, Éclairage est consacré à l'éducation nationale, mais pas à n'importe quel aspect de l'éducation nationale, dont vous savez que c'est le premier budget de l'État, 1 200 000 membres, c'est dire si l'éducation nationale, pivot de la République, compte dans notre pays. Un aspect de l'éducation nationale avec une fonction particulière dont on parle peu, mais que l'actualité met quand même en valeur. Il s'agit de la fonction de médiateur. Alors Monique Sassier est médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Bonjour Monique Sassier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler justement de votre travail, de vos missions de service public. C'est une mission de service public.
C'est une mission de service public, en effet, puisque le médiateur d'éducation nationale est désigné conjointement par les deux ministres.
Enseignement supérieur.
Enseignement supérieur, éducation nationale.
Éducation nationale. Les deux signatures.
Les deux signatures.
Alors, il y en a 47 en France, il y a 32 académies. Ce sont des personnes qui, généralement, connaissent extrêmement bien le système. C'est là aussi l'intérêt de vous avoir.
Voilà. Alors, autour de l'équipe du médiateur ou de la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, se trouve en effet un réseau de 47 médiateurs académiques qui sont tous d'anciens fonctionnaires, professeurs, chefs d'établissement, parfois même inspecteurs d'académie, inspecteurs généraux, devenus médiateurs une fois à la retraite.
Alors une précision, ce n'est pas un corps en tant que tel, hein.
Ce n'est pas un corps, c'est une activité de retraités de l'éducation nationale qui décide de consacrer à la fois de leur expertise et de leur qualité humaine.
Il faut être volontaire ?
Il faut être volontaire et choisir de devenir médiateur.
Alors vous, ce qui vous a fait choisir cette mission de service public, Monique Sassier ?
Depuis longtemps, je travaille et je crois en l'importance des modes alternatifs de règlement des conflits dans notre société. Et j'ai, il y a quelques années, travaillé beaucoup sur la médiation familiale.
Construire la médiation familiale en France aux éditions Dunod en 2005, c'est un ouvrage que vous avez fait paraître.
C'est un ouvrage que j'ai fait paraître après des travaux interministériels avec les ministères de la Famille et de la Justice sur le développement de ce mode alternatif de règlement des conflits, notamment dans les situations de divorce et de séparation. Et il s'agissait que notre pays se dote, à côté du droit, et parfois en plus du droit, d'une possibilité d'apaisement des difficultés liées aux séparations.
Donc ça, c'était le point initial qui vous a lancé dans la fonction de médiateur.
C'était le point initial qui m'a lancé, je pourrais dire, dans la médiation, que j'ai trouvé au fil du temps un mode intéressant, venu de la société civile d'ailleurs, pour régler des conflits et recréer des liens, prévenir des difficultés et tâcher de les résoudre quand elles surviennent.
Alors quelques petites précisions quand même, puisque on l'a dit au tout début de cet entretien, 47 médiateurs, 32 académies, ça veut dire qu'il y a des grosses académies qui ont quelques médiateurs en plus, hein, c'est en particulier l'Île-de-France.
Voilà, Paris, Versailles, Créteil, Lille, par exemple, sont les plus grosses académies et compte tenu de la charge de travail, compte tenu du fait que les médiateurs sont volontaires et sont bénévoles et donc ne peuvent pas passer 5 jours sur 5 de leur retraite à travailler, il y a dans ces académies 3 médiateurs. Dans les académies moyennes, ils sont 2 et peuvent être 1 dans des académies de taille plus réduite.
Le médiateur, classiquement, c'est celui donc auquel est renvoyé un certain nombre de conflits qu'il est censé pouvoir résoudre à l'amiable en trouvant des compromis, en rappelant aussi peut-être les principes de l'autorité, en se référant à une règle commune. C'est un régulateur.
C'est un régulateur. Alors, pour saisir le médiateur, on ne saisit pas le médiateur simplement parce qu'on est mécontent d'une décision. Pour saisir le médiateur et pour que le médiateur prenne en compte la réclamation, il faut que la personne, que ce soit un professionnel ou un usager, une famille, un élève, un étudiant, un jeune en formation, il faut qu'il ait exercé les premiers recours. C'est-à-dire qu'il ait écrit à l'administration en expliquant qu'il était mécontent de la décision, qu'elle ne lui convenait pas, que l'administration ait maintenu sa position, que cette position, il continue à ne pas la comprendre ou parfois à la contester. Et il demande au médiateur, en effet, de s'en saisir.
C'est un petit peu comme la Cour de justice européenne.
Toutes choses égales par ailleurs.
Voilà, si on devait faire une comparaison gardée, grand public, si je puis dire. C'est un petit peu ce qu'on va chercher en dernier recours une fois que tout a été épuisé du point de vue national. Un peu.
Voilà, c'est une sorte de troisième niveau de compréhension et de débat.
Donc on vient vous chercher quand en fait on n'a pas trouvé de solution préalable.
Quand on a épuisé les possibilités, qu'on n'a pas trouvé de solution en effet. C'est à ce moment-là qu'on vient nous chercher sur des sujets extrêmement différents.
On parlera de la violence à l'école puisque c'est une chose qui s'invite régulièrement dans l'actualité, mais on ne va pas focaliser l'essentiel du débat là-dessus. Quelle est la nature de la plupart des affaires que vous avez à traiter, Monique Sassi ? Puis on verra ensuite les tendances aussi qui s'affirment.
Ce sont des situations, des réclamations très diverses qui vont à la fois d'une demande de mutation pour un rapprochement de conjoint, par exemple, qui n'est pas intervenu pendant 5 ou 6 ans, et où des couples sont séparés et sont parfois rendus à des difficultés aussi avec les enfants. Ce peut être des situations de calcul de retraite qui sont complexes et incomprises. Nous avons cette année beaucoup de dossiers pour l'enseignement supérieur sur l'attribution des bourses, puisque les règles ont changé et qu'elles sont parfois incomprises ou considérées comme plutôt plus défavorables, alors que ce n'est pas tout à fait juste d'ailleurs. Donc il y a tous ces dossiers autour des textes, d'une analyse juridique. Il y a des dossiers autour des questions de handicap et de scolarisation des enfants handicapés. Les familles trouvent que les réponses sont parfois incomplètes ou insuffisantes et parfois même inadéquates. Nous sommes aussi saisis dans des questions relationnelles, des conflits de relations au sein des établissements, entre des professionnels, mais aussi entre des familles et des élèves et les chefs d'établissement ou les enseignants. Conflits qui peuvent parfois, si les choses tournaient mal, aller en effet jusqu'à des incivilités ou de la violence.
Combien d'affaires traitez-vous par an, Monique Sassier ?
Cette année, par exemple, nous allons rendre prochainement le rapport annuel de 2009 et nous aurons traité environ 7000 affaires.
7000 c'est considérable réponses. Parce que vous n'êtes pas très nombreux.
Nous ne sommes pas très nombreux. C'est un nombre à la fois, je dirais, important quand il faut chaque jour traiter ces affaires. C'est un nombre aussi relatif par rapport au nombre de personnel. Hein, vous le rappeliez, plus d'1,150,000. Et par rapport au nombre d'élèves et d'étudiants, plus de 15 millions.
Donc ça, c'est au plan national ?
C'est au plan national et au plan académique.
Voilà, tout affaire confondue.
Voilà,
toute géographie confondue. Les 47 médiateurs de l'éducation nationale ont grosso modo 7000 affaires par an. C'est une tendance qui augmente, qui diminue, qui se stabilise ?
C'est une tendance qui tend à augmenter de 2 à 3% par an.
Quand même. Sachant que, vous l'avez bien rappelé, il faut avoir épuisé les recours préalables. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup plus de conflits, de litiges. Vous avez une partie seulement des litiges qui arrivent sur votre bureau.
Nous avons les litiges qui ne se règlent pas, si je puis dire, dans les instances normales.
Vous estimez que c'est un chiffre satisfaisant, 7000, c'est-à-dire pour une institution comme l'éducation nationale, c'est le seuil incompressible ? Ou alors est-ce que ça révèle un dysfonctionnement en amont et des choses qui ne marchent pas si bien que cela et qu'on est obligé de résoudre d'une autre manière ?
Je pense que c'est avec une augmentation de 2 ou 3% par an ces dernières années, c'est plutôt un chiffre stabilisé maintenant. Simplement, on peut penser que si en effet plus de familles et plus de jeunes et d'étudiants connaissaient mieux la médiation, je pense qu'il y aurait davantage de saisines.
Donc votre fonction est passablement encore méconnue de ceux qui fréquentent l'éducation nationale, qu'ils soient usagers ou professionnels.
Elle est un peu méconnue encore sans doute, mais comme le sont d'ailleurs tous les médiateurs d'autres services publics d'autres grandes entreprises. Mmh. Mais surtout, on ne pense pas forcément que la médiation soit un mode de règlement des conflits. Et ce n'est pas tout à fait dans notre culture française encore d'avoir cette réaction. Et pourtant, nous sommes très surpris par la qualité des lettres que nous recevons, qui montre combien souvent il y a une volonté ou une recherche d'apaisement dans des conflits qui ont parfois trop duré.
Vous diriez qu'il y a une opposition entre la logique syndicale et le principe de la médiation ?
Je ne dirais pas qu'il y a une opposition, parce que les organisations syndicales que je rencontre, évidemment, comme celles des parents d'élèves d'ailleurs, disent elles-mêmes qu'elles ont un premier rôle de médiation. Mais un peu comme un corps compris, je dirais, dans la maison. Alors que notre souhait de médiateur institutionnel est d'être perçu dans cette fonction de neutralité ou d'impartialité. Et il est assez heureux de voir que quand on fait une enquête de notoriété, par exemple, sur ce qu'est le médiateur ou comment il est connu, eh bien, à 80%, la première qualité qui nous est reconnue, c'est justement l'impartialité. L'impartialité, c'est notre capacité à n'être ni juge, ni avocat de la personne qui nous saisit, ni procureur de cette personne qui nous saisit, et c'est la même chose pour les relations que nous avons avec l'administration.
L'impartialité et l'apaisement, ce qui caractérise votre mission. Alors je reprends, si vous le voulez bien, les dossiers que vous avez mentionnés, parce que vous pouvez peut-être nous donner quelques éclairages quand même. Vous avez parlé des mutations, des retraites, de la question des bourses, du handicap. Ce sont des domaines extrêmement divers. D'abord, à quelles règles vous référez-vous chaque fois ? Est-ce qu'il y a des règles de droit qui vous permettent de vous orienter ? précisément ?
Alors toujours, le premier travail du médiateur sera un travail d'expertise juridique, d'application des textes. Et il arrive très souvent, à peu près dans 30% des cas, nous sommes saisis et il n'y a pas de dysfonctionnement. C'est-à-dire que les règles ont été parfaitement appliquées. Simplement, peut-être ont-elles été mal expliquées, insuffisamment expliquées, en tout cas pas comprises, en tout cas au moment où la personne faisait sa réclamation. Et dans 30% des cas, je dirais que nous avons un travail pédagogique d'explication des textes de l'administration parfaitement appliqués. Dans d'autres situations, nous verrons, mais nous avons des situations très différentes.
Lesquelles, par exemple ?
Par exemple, restons sur le handicap. Et prenons cette situation d'un enfant handicapé, gravement handicapé, avec un handicap physique et puis aussi mental, qui bénéficiait d'une auxiliaire à vie scolaire. Et les textes disent bien d'ailleurs que cette auxiliaire ne peut être la même que pendant 2 ans. Cet enfant, très attaché à son auxiliaire de vie, finalement était en difficulté et extrêmement dépressif, déprimé, dépressif, malheureux, d'avoir affaire dans la classe à une nouvelle auxiliaire de vie, ce qui est absolument le texte. Mais compte tenu du handicap grave, compte tenu du fait que l'école avait accepté cet enfant aussi, ce dont elle doit être largement remerciée et ce pourquoi il faut la soutenir, eh bien, nous avons expliqué, réexpliqué aux parents le texte et dans le même temps, avec le recteur et le chef d'établissement aussi et la famille, nous avons pu faire comprendre à tous que la séparation de cette auxiliaire de vie sans préparation était un drame. Et tous ont été d'accord avec nous pour proposer cette auxiliaire de vie une 3e année. Et que pendant cette année, 3e année, on explique à l'enfant que l'année prochaine, en effet, il changera. Et il y a là un souci de laisser entre l'enfant handicapé et les parents ce lien privilégié et de faire que le personnel ou les personnes qui entourent l'enfant handicapé changent en cours de route. C'était un travail pédagogique, c'était un travail de respect du texte et c'était un travail de recherche d'une solution alternative, complémentaire, qui vienne recréer des liens.
Alors, respect des textes, en même temps, vous avez réussi à prolonger d'un an ce que le texte ne prévoyait pas. Donc, vous avez une certaine liberté par rapport à la règle de droit que vous avez obtenue par la concertation.
On obtient par la concertation, on peut obtenir par la concertation qu'on fasse plus que le droit. C'est-à-dire le droit n'est pas bafoué, les 2 ans se sont appliqués. Mmh. La 3e année est venue en plus comme un élément, en effet, d'apaisement de ce conflit qui promettait d'être terrible entre la famille et l'école, évidemment.
Alors voilà un cas précis. Pourquoi l'école n'a été, l'école, vous avez bien dit, il fallait la remercier. Pourquoi l'école et la famille en question ont-elles été obligées de recourir à vos services ? Pourquoi n'a-t-on pas trouvé un compromis avant d'en venir au médiateur ?
Alors, parce que, heureusement, les institutions appliquent les textes qui sont, démocratiquement décidés. Et on ne pourrait pas vivre dans une institution qui réinterpréterait indéfiniment les textes.
Et en l'espèce, par qui ? Qui décide du texte qui doit dire qu'une auxiliaire de vie doit rester 2 ans auprès d'une personne handicapée dans une école ? Qui vote cela ? Ce sont les députés ?
Ça n'est pas un texte évidemment parlementaire, c'est une circulaire d'application. Et c'est un texte qui a fait l'objet de beaucoup de négociations avec le monde de la santé, le monde de la famille et le monde de l'éducation nationale.
Mais vous dites démocratique, qui en l'espèce décide de cela ?
En l'espèce, ce texte-là a été décidé de façon interministérielle, santé, éducation nationale, famille, et s'applique dans tous les domaines de l'accompagnement des enfants handicapés. Mais
il n'est pas particulièrement démocratique. Ça peut être des hauts fonctionnaires qui prennent telle ou telle option, qui font des choix.
Oui, à partir de la loi de 2005, en effet, sur le handicap, qui insiste sur la scolarisation des enfants handicapés, un certain nombre de textes réglementaires et d'application de circulaires sont venus illustrer, compléter le dispositif législatif. Mais dans le cas particulier, ce qui a pu être pris en compte et que sans doute la famille et l'école avaient du mal à faire évoluer, parce qu'il ne s'agit pas de donner tort ou raison à l'un ou à l'autre et contre l'un ou l'autre. Ça, c'est l'envers de la médiation. Et ce à quoi servait un tiers, justement, impartial, c'est à faire que personne n'ait raison ou tort, mais que soit privilégié pendant cette année, une sorte de bien-être de l'enfant que les textes permettaient, mais que les relations locales ne permettaient peut-être pas.
Votre décision va faire jurisprudence ?
Non, pas nécessairement, parce que dans la plupart des cas, il n'y a pas de difficulté. Et c'est, je crois, la 2e fois en quelques années que nous avions cette situation dans le cadre très particulier d'un enfant extrêmement fragile sur le plan mental.
Outre le handicap, quels sont les litiges les plus saillants auxquels vous devez faire face?
Nous avons des litiges assez nombreux sur des situations de mutation, par exemple, ou des professeurs qui ont été séparés, qui ont accepté, qui ont passé un concours national, qui ont donc accepté, bien sûr, un poste au niveau national et une affectation nationale, trouvent qu'au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans de séparation familiale avec des enfants, je dirais, la coupe est un peu pleine. Leur situation familiale se dégrade. Et ce qu'ils ont accepté pour quelques années, ils ne sont plus prêts, forcément, à l'accepter au bout de 3 ou 4 ans. Et je dois dire que ceci recoupe un mouvement général de la société. Il n'y a pas de semaine où les politiques publiques ne prônent pas un rapprochement des familles et une conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.
En même temps, on vit dans la mobilité permanente.
Alors, on vit dans la mobilité, mais on ne vit pas forcément dans l'éloignement. Et nous proposons d'ailleurs dans notre rapport annuel qu'au bout de quelques années, de façon aussi systématique que possible, cette situation de séparation de conjoint puisse être réglée.
Mais alors Monique Sassier, ça veut dire que pour toutes les personnes qui ne sont pas contentes de leur affectation, elles peuvent systématiquement recourir au médiateur de la République. On imagine que dans une usine telle que l'Éducation nationale, ça peut produire des situations totalement ingérables.
Non, parce que ces situations, par exemple, pour rester un instant sur ces difficultés de rapprochement de conjoint, sur une administration aussi importante que l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur, cela concerne pas plus de 300 situations sur le 1 150 000 personnes affectées.
Ce qui demeure marginal.
Et ces personnes, généralement, ont fait toutes les démarches qu'il était possible de faire et se trouvent sans réponse parce qu'il n'y a pas, par exemple, de poste disponible. Imaginons un professeur de musique qui veuille rejoindre une région où se trouve son mari, qui n'est pas forcément Perpignan, Biarritz ou Marseille. Eh bien, il peut tout à fait n'y avoir aucun poste disponible
Alors,
dans la
s'il
région.
S'il n'y a pas de poste, qu'est-ce que vous allez faire de plus, vous?
On pourra par exemple proposer que, et c'est le cas parfois, des conjoints soient rapprochés dans la région où est l'un, et non pas forcément dans la région du sud qui peut être demandée. Si c'est le rapprochement de conjoints qui est prioritaire sur la géographie, eh bien peut-être que l'autre conjoint peut être aidé à déménager, ou aidé à trouver un poste dans la région où se trouve son conjoint. Le rapprochement de conjoint ne signifie pas obtenir nécessairement l'affectation dans le lieu que l'on choisit. Le rapprochement de conjoint consiste à être rassemblé.
J'ai une question un petit peu peut-être gênante, Monique Sassier, mais est-ce que le médiateur peut être perçu par la hiérarchie de l'Éducation nationale, que vous connaissez bien, comme une façon de faire passer devant certaines décisions, de griller certains circuits, d'obtenir certaines choses que l'on ne peut pas obtenir par la voie normale? Est-ce que le médiateur va faire hâter quelques dossiers, en faire passer quelques-uns au-dessus de la pile?
Alors, la réponse, elle est clairement non, même si on ne peut jamais empêcher qui que ce soit de saisir le médiateur en se demandant si une saisine de plus, en plus du ministre et des administrations, ne serait pas bénéfique. Je dirais que nous avons du métier. Et en moins de 3 minutes, nous avons identifié ce genre de situation. Nous, d'ailleurs, repérons dans ces cas-là quelqu'un qui a écrit absolument partout, y compris hors les sphères de l'Éducation nationale. Quand nous commençons le travail de médiation, nous sommes immédiatement en contact avec la personne qui a adressé une réclamation. De même que nous sommes immédiatement en contact, si elle en est d'accord. Dans la médiation, rien ne se fait sans l'accord des personnes. Nous sommes immédiatement en contact avec l'institution, que ce soit le médiateur académique au niveau du rectorat ou de l'académie, ou que ce soit nous, au niveau national. Donc, je dirais qu'une réclamation qui n'en serait pas une ne passe pas cette première barrière.
Est-ce que vous les rencontrez, les personnes concernées?
Alors, nous, à Paris, pour l'équipe de Paris, le plus généralement, nous ne les rencontrons pas. Nous l'avons déjà fait, si les personnes nous le demandent, dans des situations où elles estiment devoir nous donner des informations qu'elles ne souhaitent pas écrire. Mais dans ce cas-là...
Des cas très particuliers.
Je repense à quelques situations de mutation, par exemple, où il y avait dans les familles des maladies graves. Et on comprend bien qu'il est difficile à un personnel d'évoquer la maladie grave de membres de sa famille, que l'intégrité des personnes fait qu'elle ne l'évoque pas dans une lettre comme un élément de demande de mutation, par exemple.
Mais en soi, est-ce que c'est techniquement compliqué de rencontrer son médiateur?
Alors, au niveau académique, où les saisines sont évidemment moins nombreuses, et où les saisines sont localisées par l'appartenance géographique dans l'académie, des médiateurs académiques rencontrent très facilement d'ailleurs des familles ou des personnels. Et ils le font même plus tôt de plus en plus.
Déjà pour faire connaître l'existence de la fonction.
Pour faire connaître l'existence de la fonction et puis aussi parce que je dirais, l'outil privilégié du médiateur, c'est la parole.
Est-ce que ça sert un peu de soupape, le médiateur, dans un milieu qui est soumis, on va en parler, Monique Sassier, inévitablement, qui est soumis à une certaine pression. Le monde de l'école, c'est un monde en soi, c'est un milieu en soi. Est-ce que vous vous êtes qualifié vous-même de tiers ? Est-ce que ce tiers est aussi un peu une soupape dans un monde qui est tendu ?
Je ne sais pas s'il est une soupape sous une casserole qui chaufferait, mais en tout cas, de toute évidence, cette fonction de tiers fait de l'air dans le système. Elle est identifiée de cette façon-là. Il faut à ce moment-là, je dirais, se souvenir que ce sont les ministres, il y a 10 ans, qui ont souhaité la création d'un médiateur et la création d'une autorité autonome, qui n'est pas indépendante, puisque nous sommes nommés, les médiateurs sont nommés par les médiateurs au niveau national et nommés par les ministres. Donc il ne s'agit pas d'indépendance, mais l'autonomie du médiateur, et je peux en témoigner, est totale. Je n'ai jamais reçu de consigne de qui que ce soit. Cette autonomie est, je dirais, un peu l'honneur de la création de ce médiateur, dont il faut remarquer que c'est le seul médiateur des services publics à prendre en charge à la fois les questions de personnel et d'usagers. Il y a un médiateur au ministère des Finances qui prend en compte les réclamations des usagers, essentiellement dans le domaine fiscal, mais qui ne prend pas en compte celles des personnels. Je dirais notre institution, l'Éducation nationale et supérieure, a toujours considéré que le médiateur devait avoir une vue d'ensemble sur le dispositif.
Tous les médiateurs ne se valent pas, c'est ce que vous nous dites en quelque sorte dans les missions qui leur sont attribuées.
Tous les médiateurs ne se valent pas et tous les grands services publics n'ont pas la même conception du médiateur.
Monique Sassier, vous restez avec nous.
Redécouvrez Napoléon III en compagnie du biographe Éric Anceau. Après 15 années de recherche, il a publié une biographie étayée de documents inédits sur ce personnage de l'histoire. Un nouveau portrait de Napoléon III, une émission Un jour dans l'histoire, à télécharger librement sur le site canalacademy.com.
Éclairage avec Monique Sassier, médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et qui a publié, c'était en 2005 aux éditions Dunod, Construire la médiation familiale en France. La médiation, on en parle et c'est évidemment Monique Sassier, j'allais dire au menu de l'actualité, d'une actualité récurrente à travers ce prisme de la violence à l'école. Alors il s'est récemment tenu, vous savez que sur cette antenne Canal Académie, on n'est pas en direct, hein. On est dans l'univers d'une actualité à tendance longue. Donc on va essayer un petit peu d'élargir son regard, de prendre un petit peu de recul sur une actualité immédiate, celle des États généraux de la sécurité à l'école, qui se sont tenus donc à la Sorbonne pendant 2 jours, avec des dispositions prises par Luc Chatel qui consistent sur la question de la violence à l'école à renforcer les dispositifs existants, en particulier de surveillance, des dispositifs essentiellement techniques, alors que l'attente qui avait été exprimée par les personnels de l'éducation nationale portait davantage sur la formation des professeurs à la façon d'appréhender la violence dans le milieu scolaire. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous en parler ? Est-ce que les états généraux de la violence à l'école, c'est déjà une logique de médiation, Monique Sassier ?
Alors, d'abord, je voudrais ces états généraux
de la sécurité à l'école. Hein, j'ai
de
mal
la sécurité
employé,
à l'école.
Pas la violence à l'école, c'est la sécurité.
Voilà.
La sémantique est importante.
Voilà, j'allais le reprendre parce que ça n'est en effet pas du tout la même chose. Un des axes majeurs déterminés par le ministre hier, ce 8 avril, consistait à insister beaucoup sur la formation des enseignants. Ça a été, je crois, le deuxième ou le troisième axe qu'il a cité. Et c'est un axe qui a été travaillé tout au long des états généraux. Ça a été, dans tous les ateliers, un élément majeur. L'axe de la sécurisation, on pourrait dire, des établissements, de la réduction des intrusions, et un axe aussi qui a été souligné, je dirais avec justesse, il n'est pas question de laisser qui que ce soit entrer dans l'école. Mais surtout, le ministre a insisté sur le fait qu'il tenait à une école où les cours se déroulent normalement et où la sécurité est assurée pour que l'enseignement se fasse. Les observations que nous avons tous, et nous en avons aussi à travers quelques situations, elles permettent de voir qu'au-delà d'un certain degré de difficultés, de violence ou d'insécurité ressentie, ce sont les apprentissages qui ne se font plus ou qui en pâtissent. Et donc, c'est vraiment cette volonté qui a été mise en avant.
Donc là-dessus, tout le monde sera à peu près d'accord que les cours se déroulent bien et qu'il n'y ait pas d'intrusion, que l'école ne soit pas exposée à des désagréments venus de l'extérieur. Maintenant, c'est sur les moyens, comment y parvenir ?
Sur les moyens, tout ce qui a été mis en place sur la sécurisation des établissements est plutôt renforcé. Mais tout le monde sait que les réponses à la violence...
Ça veut dire caméras, portiques, etc.
Caméras, en tout cas, portiques, c'est quand même beaucoup plus difficile.
Oui.
Mais en tout cas, caméras, vidéosurveillance. Et les établissements, je dirais, les plus sensibles à la violence sont déjà tous équipés. Et personne ne vient aujourd'hui contester.
C'est une bonne réponse, selon vous, ça ?
C'est une bonne réponse avec d'autres réponses. Je crois que les États généraux ont insisté, mais je pense que le ministre le savait, et que tout le monde le sait d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas une réponse unique aux questions de violence, d'incivilité, d'intrusion. Il y a un ensemble de réponses. Et ce qu'ont permis ces États généraux, c'était avec, je dois dire, beaucoup de liberté, apportée aussi par les chercheurs étrangers. Ça a été avec beaucoup de liberté d'envisager plusieurs solutions. Nous sommes sortis de l'idée qu'il y aurait un problème égal une solution.
Alors, il y a le volet technique. On l'a compris, vidéosurveillance, la formation des enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire, la formation des enseignants ? Vous leur donnez des cours de karaté ?
On ne leur donnera pas des cours de karaté, mais dans la formation, seront construits des modules de gestion des conflits. Par exemple, depuis quelques mois, je vais très régulièrement à l'École supérieure de l'éducation nationale. J'ai rencontré dernièrement les 180 inspecteurs de l'éducation nationale de la promotion 2009 et puis les 180 de la promotion 2008. Pour passer avec eux une heure et demie sur le lien entre le droit et la médiation, sur l'intérêt de la médiation dans les conflits, sur comment elle peut se dérouler et sur quelle aide elle peut apporter dans ces situations-là. Aux côtés des juristes qui, eux, rappelaient les textes, aux côtés des forces de police qui, eux, rappelaient en effet les conditions de sécurité, comment on sécurise un établissement, comment on détermine ce périmètre de sécurité, comment le référent police travaille avec l'intérieur de l'école ou du lycée ou du collège, mais travaille aussi avec les élèves, comment, entre les pairs aussi, et avec l'ensemble des enseignants, on peut réduire ces phénomènes de violence.
Vous avez passé du temps avec les inspecteurs, mais pas avec les professeurs ? Les enseignants, qui eux, quand ils sont seuls face à un phénomène de violence, que vont-ils faire ?
Alors, je pense que le premier élément de formation qui leur sera redonné, ce sera en effet d'avoir une expertise plus grande sur les phénomènes de violence. Tout n'est pas violence. L'agressivité, par exemple, ne conduit pas forcément à la violence. L'agressivité, ça reste un mode de contact, certes désagréable, mais possible et réel dans la société d'ailleurs. De ce point de vue-là, l'école n'échappe pas à la société. Les phénomènes de violence appellent des traitements différents. Ils appellent, par exemple, à ce qu'ils soient repérés assez tôt. Peut-être qu'une formation plus complète sur ces sujets-là permettra aux enseignants de repérer. Alors, les chefs d'établissement et les enseignants, les médiateurs académiques, les rencontrent. J'étais, il n'y a pas très longtemps, avec Bernard Gossot, le médiateur académique de Créteil, et nous avons rencontré tous les chefs d'établissement de l'Académie de Créteil en formation. Il y avait là, à nouveau, 180 personnes.
Il y a des recettes qui se dégagent de ce contact ?
Il n'y a pas de recette, mais il y a une prise de conscience que la violence peut avoir des réponses. Et surtout, la prise de conscience la plus grande, et à mon sens, c'est la recette la plus importante, c'est que la violence ou les difficultés de ce genre au sein des établissements sont l'affaire de tous les adultes de l'établissement. Elles ne sont pas que l'affaire du conseiller principal d'éducation ou de l'assistant d'éducation.
Donc pas question de se défausser sur un seul interlocuteur ?
Non. Dans un système qui se défausserait, il y aurait beaucoup de pertes en ligne et beaucoup de dégâts.
Ce sont, paraît-il, 10% des établissements qui concentrent la moitié des violences. Ce sont des phénomènes, la cartographie est à décrypter aussi, Monique Sassier ?
Oui, en effet, les établissements, mais on le sait depuis bien longtemps, les établissements classés dans les zones sensibles, les établissements des réseaux Ambition Réussite, sont des établissements qui sont identifiés pour concentrer une part de la violence. Et aussi ces établissements où on scolarise des jeunes qui ont parfois, qui n'ont plus très envie finalement de l'école et qui ne s'y retrouvent pas. Et donc il y a à faire avec eux pour faire baisser cette violence, un travail sur... Évidemment, la lutte contre les intrusions, mais aussi un travail sur l'estime d'eux-mêmes, des élèves, à la fois sur l'estime que leur porte le monde adulte dans son ensemble. C'est difficile aujourd'hui la vie pour la jeunesse.
Est-ce que vous avez plus d'affaires à traiter sur ces territoires-là, bien particuliers des zones sensibles ? Est-ce qu'il y a une superposition entre le nombre de cas que vous traitez et la violence, les cas de violence?
Non. Quand on regarde la répartition géographique des réclamations que nous avons, il n'y a pas de surdétermination de ces zones. Pour une raison, je pense, assez simple, hein, c'est que d'abord, ça n'est pas forcément un milieu dans lequel nous sommes très, très connus, même si nous avons traité un certain nombre de cas, on pourra y revenir. Et puis, d'autre part, beaucoup est fait sur place, déjà. J'ai passé quelques années à l'inspection générale sur le fonctionnement de ces réseaux Ambition Réussite. Et vraiment, c'est un lieu où il y a une mobilisation du chef d'établissement, d'une équipe de direction qui est souvent très homogène, et des enseignants, pour prendre à bras le corps et quasi en temps réel, finalement.
Donc il y a déjà une expertise et des circuits qui sont bien rodés sur le front de la violence scolaire.
Nous avons dans l'institution, je dirais, et pour moi c'était un constat un peu parallèle des états généraux, nous avons dans l'institution des capacités à traiter ces questions. Simplement, il nous faut sans doute davantage les traiter avec d'autres.
Alors Monique Sassier, je rappelle, vous êtes médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il y a une tendance dont j'aimerais que vous me parliez à présent. En 98, 8 réclamations sur 10 concernaient des personnels. 10 ans plus tard, 2009, 6 réclamations sur 10 concernent des familles. On observe donc un renversement de la demande par rapport à la fonction que vous occupez de médiateur.
Voilà. Alors, ce basculement, en fait, s'est fait en 2005. Quand on regarde année après année les chiffres, en 2005, le nombre des usagers est passé à 52-53% et puis n'a cessé d'augmenter. Et ça ne cesse d'augmenter, d'ailleurs, notamment avec une augmentation précisément des conflits relationnels. C'est-à-dire que le médiateur est bien perçu pour ce qu'il est, capable de régler des problèmes de liens qui sont parfois, je dirais, à feu et à sang.
Entre des familles et des personnels d'établissement.
Entre des familles et des établissements, sur parfois des questions disciplinaires, sur des questions de comportement, sur des questions, on les évoquait tout à l'heure, les questions de handicap, sur des questions aussi de... Enfin, assez peu de ce qui se passe dans les classes, mais les familles sont toujours inquiètes et aujourd'hui, elles espèrent que l'école conduira leurs enfants au plus haut niveau de diplôme et de compétences professionnelles.
Oui, mais attendez, Monique Sassier, ce n'est pas ce qu'on attend logiquement d'une réclamation devant le médiateur, non ? Le médiateur ne va pas vous répondre. Que leur répondez-vous à ces familles qui vous disent « Est-ce que mon fils sera polytechnicien ?»
Elles ne disent pas que leur fils sera polytechnicien parce qu'elles sont suffisamment grandes pour le faire toutes seules. Mais elles vont nous saisir quand, entre elles ou leur enfant et l'établissement, il y a par exemple des conflits sur les comportements. Il y a eu un temps, peut-être 30 ans, où personne n'aurait saisi un médiateur sur des affaires comme ça et se serait débrouillé tout seul. Aujourd'hui, les familles ont le souci de régler ces questions.
Mais à quelle question précisément ? Parce qu'on vient vous voir pour vous demander si l'établissement est à la hauteur des ambitions qu'il affiche ?
Je prends une des dernières situations que nous avons traitées. Nous avons eu la situation d'un jeune collégien qui était dans son établissement d'un comportement extrêmement difficile et où nous étions à deux doigts d'un conseil de discipline, voire d'une exclusion. La famille nous a saisis en disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi l'établissement était à ce point sévère avec cet enfant, qui par ailleurs était tranquille chez lui, et comment il se faisait qu'on mettait cet enfant en échec. Alors là, en effet, la famille a été rencontrée par le médiateur. Nous avons, dans le même temps, dit à la famille que nous prenions contact avec le chef d'établissement pour essayer de notre côté de comprendre ce qui se passait. Les insultes de la famille par rapport à l'établissement n'étaient pas mince à faire et s'ajoutaient au comportement de l'enfant. Et finalement, en recevant fait assez rare, l'enfant avec sa famille ou sa famille avec l'enfant, d'un côté, puis ensuite en voyant l'établissement, peu à peu, nous avons décelé que finalement, certes, l'enfant posait de multiples problèmes dans l'établissement, mais que surtout, dans cette famille, tout le monde était absolument sans limite d'aucune sorte et qu'aucune autorité n'était exercée. Et peu à peu, et sans que la médiation soit une thérapie, c'est-à-dire en deux rencontres, l'enfant a pu dire que, en effet, il ne savait plus où il en était. Il ne savait plus les limites de ses comportements. D'où une agressivité, d'où une violence qui commençait et d'où une famille qui perdait pied. Le résultat de l'affaire a été d'abord que cette famille puisse entendre qu'en étant adulte et en étant une famille, on ne laisse pas un enfant sans limites et on lui impose une direction de vie ou en tout cas des choix de vie et une autorité. Et dans le même temps, l'établissement informé, et la famille en était d'accord de cette situation, a en effet revu cette position et plutôt qu'engager des procédures, on en était à deux doigts, a organisé une sorte de contrat de vie avec cet enfant qui a repris pied dans l'établissement et s'est remis à travailler sans même qu'il y ait finalement besoin de le changer d'établissement.
En fait, vous avez remis cette famille devant ses responsabilités.
On a remis cette famille devant ses responsabilités. On a pu parler avec le chef d'établissement pour que, face à ces difficultés parentales, il n'y ait pas une sanction sur l'enfant qui n'y était, au fond, reconnaissons-le, pour pas grand-chose.
Alors là, c'est un bon exemple concernant le comportement, mais sur le niveau de l'établissement, est-ce que vous avez des explications pour lesquelles une famille recourrait au médiateur ?
Non, nous, ces questions-là ne se traitent pas au niveau du médiateur.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'une famille se plaigne d'un professeur défaillant et que pour cela, le médiateur soit contacté ?
Nous avons des familles qui sont inquiètes, par exemple, devant des absences prolongées.
Voilà, par exemple.
De professeurs, des absences maladie, qu'il est parfois difficile de remplacer. Et plusieurs familles nous ont déjà écrit en montrant leur inquiétude.
C'est ça, ça peut jouer.
Oui, ça peut jouer. Là, d'abord, évidemment, nous reprenons contact avec la famille, mais comme toujours, de même que nous reprenons contact avec l'établissement.
Et ça a une influence pour faire revenir le professeur éventuellement ?
Ça n'a pas forcément une influence parce qu'il faut le trouver, le professeur de maths qui, au fin fond de l'Aveyron, va rejoindre un poste pour quelques mois. Ça n'est pas si simple. Mais en tout cas, l'alerte que nous pouvons faire n'est jamais inutile sur la situation. Mais l'intérêt de ces questions-là, c'est un peu un autre intérêt. C'est que dans nos missions, nous avons aussi cette fonction institutionnelle de faire retour vers les ministres des réclamations que nous avons et des propositions que nous faisons à l'institution, au-delà des situations individuelles, pour régler tel ou tel, alors cette fois, dysfonctionnement.
Vous êtes un baromètre aussi.
Nous sommes une sorte de baromètre. Et même, de temps en temps, nous pouvons faire un peu le soleil, en effet.
Monique Sassi, est-ce qu'il y a des cas qui vous laissent amer dans le sens où non, vous n'avez pas la solution ?
Oui, bien sûr.
Et que faites-vous dans ce cas-là ?
Il y a des situations qui nous laissent amer parce que parfois, nous avons proposé une solution. Le médiateur propose, mais l'administration décide au bout du compte et parfois n'a pas suivi une proposition d'évolution que nous lui proposions. Cela arrive. Il y a dans ce cas deux situations possibles. Soit c'est une situation individuelle qui ne fait appel à aucune modification de texte. Et on dirait que nous sommes dans une situation individuelle. Nous n'avons pas réussi à faire bouger les lignes.
Du cas par cas.
Du cas par cas. Et la loi d'ailleurs n'a pas réglé toutes les situations individuelles, heureusement. Soit nous sommes, c'est le cas par exemple des rapprochements de conjoints. Nous sommes face à des textes qui ne permettent pas parfois d'aller au-delà. Et là, nous allons chaque année faire des recommandations à l'administration pour que des textes évoluent. Par exemple, nous avons eu un nombre de situations tout à fait importants sur les difficultés dans le cas des familles recomposées pour l'exercice de l'autorité parentale et le suivi scolaire. Eh bien, de toute évidence, les textes existent, et en plus je les connais bien, mais la façon dont ils ont été peu diffusés ne permet pas du tout aux familles de s'y reconnaître, de savoir qui a droit à quoi et quels sont les droits des uns des autres. Et nous avons proposé cette chose assez simple dans l'idée, pas facile à faire dans la réalité, de demander à l'administration de rédiger avec nous d'ailleurs ce qu'elle fait, une brochure à destination de toutes les familles sur les droits des uns des autres, sur les possibilités des uns des autres, possibilités méconnues.
Parce que les choses deviennent complexes au regard des situations familiales des uns et des autres.
Voilà, les choses deviennent légitimement complexes.
Est-ce que les questions liées à la discrimination, on sait qu'il existe la HAD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui relève des situations qui peuvent prêter justement à litige, est-ce que vous êtes un peu aussi dans cette situation-là où il y a de plus en plus de réclamations liées au fait de se sentir discriminé ?
Nous en avons...
À tort ou à raison, hein ?
Oui, tout à fait. Nous en avons un certain nombre. Très souvent, derrière ce qui est dit comme discrimination, ça a été le cas sur le handicap, par exemple, qui a été considéré... comme une discrimination pendant longtemps, qu'il est toujours, nous avons parfois des problèmes d'incompréhension et de lien. Et dans ce cas-là, nous les gardons parce que ça ne répond pas à la définition juridique du harcèlement. Le mot discrimination, harcèlement sont des mots aujourd'hui un peu valises qui ont une
C'est compliqué,
ils ont une très large audience. Et donc, nous trouvons en face, en effet, de réclamations qui sont tout à fait de l'ordre et de la compétence du médiateur. Et puis, il y a quelques situations où, en effet, notre analyse est que là, il y a discrimination. Et dans ce cas-là, c'est avec la HALD, dans un partenariat qui est extrêmement simple et facile, que nous traitons ces situations. La HALD, je dirais, reprenant la main sur un dossier de sa stricte compétence, le fait en lien avec nous, puisque nous sommes dans le domaine soit scolaire, soit universitaire.
Et alors, du point de vue de la répartition des compétences, est-ce que la HALD, quand vous dites elle reprend la main, ça veut dire que c'est elle qui va être décisionnaire à la fin, c'est elle qui pourra dicter d'une certaine façon une conduite à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur ?
Voilà, si en effet la discrimination est avérée, si en effet le champ de compétences est celui de la HALD, c'est elle qui en effet fait les recommandations et fait les propositions.
En interne, c'est bien perçu, cette possibilité donnée à la HALD de modifier, d'avoir un pouvoir contraignant.
Oui, c'est jamais perçu facilement, évidemment. Mais en tout cas, c'est respecté. Mais c'est respecté aussi parce que là où ça se passe, nous n'avons jamais abandonné la situation et jamais laissé à penser que finalement un autre que nous continuerait à s'en occuper. Nous continuons ce travail commun.
Ma dernière question, Monique Sassier. Est-ce qu'il y a un recours après le médiateur ? Si jamais ça échoue, est-ce qu'on peut encore ? Est-ce que vous êtes le dernier recours ? Est-ce qu'il existe d'autres moyens après ?
Non, après notre intervention, la personne peut tout à fait continuer à saisir l'administration. Elle peut, sur certains dossiers qui sont recevables devant le tribunal administratif, engager des procédures devant le tribunal administratif. C'est le cas, par exemple, lorsque, à la suite de congés maladie longs, ou à la suite d'erreurs de fonctionnement ou de dysfonctionnement ou de déclarations incomplètes de la part des personnels d'ailleurs. Certains ont pu recevoir des traitements incomplets au lieu de traitements mi-traitement ou des primes qui ont perduré pendant longtemps. Les personnes peuvent tout à fait saisir dans ce cas-là le tribunal administratif qui lui donnera l'avis du juge et redira le droit.
Sur les 7000 affaires traitées par an en France par les 47 médiateurs des 32 académies, combien se retrouvent après devant le tribunal ? Il y a un pourcentage ?
Moins de 10.
Moins de 10.
Moins de 10.
Donc vous avez un taux de réussite colossal en fait.
Nous avons, en tout cas, nous répondons à toutes les réclamations. Et il est assez intéressant de noter qu'il ne nous arrive pas de recevoir de lettres en disant « le travail a été mal fait ». Les personnes savent qu'en saisissant le médiateur, elles auront de toute façon une réponse par un tiers qui aura été étayée. Elles ne saisissent pas forcément le médiateur pour avoir raison. Elles saisissent le médiateur parfois pour savoir et pour vérifier que le droit a été appliqué, que l'équité est respectée et que tout a été vérifié. Et puis, elles font leur affaire de la décision.
Merci beaucoup, Monique Sassier, d'avoir été avec nous. Médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, je rappelle votre ouvrage chez Duno, « Construire la médiation familiale », c'était en 2005. « Impartialité, apaisement », ce sont les deux mots que l'on retiendra pour répondre à une situation à la française qui est souvent axée sur la confrontation. Donc c'est bien de montrer que dans une institution comme l'éducation nationale, on peut d'abord arriver à résoudre des conflits par la médiation, la concertation, et qu'on n'est pas obligé justement d'en venir, si je puis dire, aux mains. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Canal Académie pour nous en parler de cette fonction de médiatrice. Ça sera quand même ma dernière réflexion. Ça doit être quand même une fonction passionnante parce que vous rencontrez des situations totalement différentes, quoi.
C'est une fonction passionnante, d'abord parce que nous pouvons résoudre un certain nombre de situations. C'est une fonction passionnante parce que ça nous donne un regard à la fois sur, je dirais, la machinerie de l'institution, à partir à la fois de ses usagers, ses familles, de ses étudiants, de ses élèves, et à la fois à partir du fonctionnement des personnels. C'est donc en effet un grand bonheur.
Et puis c'est une mission de service public. Merci d'en avoir parlé avec nous.
Merci à vous.